Bonjour à vous tous, auditeurs. Nous sommes ravis de vous retrouver sur les ondes locales pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Rémi.
Bonjour Michel et bonjour à tous. Quel est le thème de notre chronique ?
Dans quelques jours, Paris accueillera les Jeux Olympiques. Nous, de notre côté, nous allons parler de trois sports d'autrefois.
Nous écoutons d'abord quelques notes du clip de Paris 2024. Michel, à l'occasion de Paris 2024, nous évoquons ce qui existait à Bourg avant les Jeux Olympiques modernes.
Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin, l'initiateur, a choisi ce mot de « jeu » et non pas celui de « sport ». Et au Moyen-Âge, existait le jeu de l'arquebuse qui, à l'origine, avait un système de propulsion voisin de celui de l'arbalète.
La guerre de Cent Ans a prouvé la nécessité de disposer d'excellents tireurs à l'arquebuse, arbalète ou tout simplement à l'arc. Pour encourager la pratique, des concours sont organisés.
Des tirs à l'oiseau, alors appelés papegaie ou papegaie, ces mots font référence à perroquet. On fabriquait un perroquet en bois ou en carton, on le hissait au sommet d'un mât et les tireurs devaient l'abattre avec leurs flèches.
Ces concours étaient très sérieux.
À la fin du Moyen-Âge, la Bresse est sous domination de la Savoie et le duc officialise la compagnie de l'arquebuse en mai 1480. Il autorise aussi un concours annuel du tir à l'oiseau et le vainqueur est déclaré roi pour une année. Ce roi reçoit un prix en argent et il est exonéré de certaines charges. Ce n'est pas rien, le jeu en vaut la chandelle.
On en retrouve des mentions dans les archives de la ville.
À la fin du XVIe siècle, le duc confirme les privilèges accordés aux vainqueurs, toujours déclarés rois pour une année. Lorsque la Bresse devient française, en 1601, les compagnons de l'arquebuse demandent le rétablissement du concours annuel.
En quel endroit ?
Durant une époque, il a été organisé place de la Boucherie, l'actuelle place de la Comédie. Ensuite, il a été déplacé sur le bastion de Morvel, c'est-à-dire l'actuel bastion. Le conseil de la ville établit un règlement pour arbitrer les différends entre les tireurs. Ce tir à l'oiseau se maintient jusqu'à la Révolution et il est pratiqué en d'autres lieux géographiques que Bourg.
Nous avons retrouvé l'écho d'un grand concours régional à Mâcon, en août 1731.
En effet, les chevaliers de l'arquebuse de Mâcon, au nombre de 60, ont invité leurs homologues des villes de la Bourgogne, dont celles en Bresse, de Bourg, Montluel et Pont-de-Vel. Le concours s'est déroulé avec une grande solennité. Je cite l'article. « Une magnifique avenue formée de portiques de verdure, surmontée d'une balustrade peinte, conduisait au tir en passant sous un portique. Cette avenue était garnie de tentes dans lesquelles se distribuaient toutes sortes de comestibles et de rafraîchissements. »
Nous connaissons les résultats.
Le concours se disputait par compagnie et 15 prix étaient en jeu. La victoire revient à la compagnie de Tournu. Pont-de-Vel obtient le 11e prix et Bourg le 13e.
La révolution de 1789 nous fait changer d'époque. Qu'advient-il du tir à l'oiseau ?
Sous la Révolution et l'Empire, les préoccupations sont autres et les fêtes différentes. Le jeu revient après l'Empire et la presse locale nous en donne quelques échos. À Bourg, il se déroule à l'occasion de la fête du roi, la Saint-Louis, du 25 août, et c'est la compagnie des sapeurs-pompiers qui l'organise.
Dans quelles conditions ?
Le concours se déroule sur la promenade du Mail, en présence des autorités civiles et militaires, après l'office religieux et avant la remise des prix au collège. Le programme de la fête est le même d'une année à l'autre. En 1845, un tir à l'oiseau est ajouté à la fête de la Saint-Nicolas, la grande fête de Bourg de la mi-septembre.
Sous le Second Empire, le tir reprend sa place initiale, au Bastion. Et il se déroule désormais le 15 août pour la Saint-Napoléon, la nouvelle fête nationale de la France.
Désormais, le tir s'effectue au fusil et c'est le préfet qui ouvre le concours, toujours organisé par les sapeurs-pompiers. La journée se termine par un banquet.
Ce concours se maintient sous la Troisième République et il se diversifie.
Outre Bourg, le tir à l'oiseau se développe aussi à Pont-de-Vaux, Nantua, et on le retrouve occasionnellement en Haute-Bresse, à Bonpont ou à Saint-Nizier-le-Bouchou.
Le tir à l'oiseau vit ses derniers instants.
En effet, il est désormais remplacé par le tir sur cible, moins aléatoire, où les concurrents peuvent être classés objectivement. Et à Bourg, une société de tir est créée en 1867. Après quelques périodes d'hésitation, elle repart sur de bonnes bases en 1880. Et peu à peu, les concours de tir se multiplient dans les villages.
Pourtant, le tir à l'oiseau existe toujours.
Dans la vallée de la Valserine, la tradition s'est longtemps perpétuée dans plusieurs villages. Et aujourd'hui, la fête de l'oiseau a toujours lieu à Gex. Et 2024 a vu la 496e édition. Le tir à l'oiseau est symbolique, mais la fête, très populaire, attire un très nombreux public. La fête d'aujourd'hui connaît divers temps forts, dont un défilé où l'oiseau est désormais un immense tétras, l'oiseau emblématique de la chaîne du Jura.
Ce tir à l'oiseau a d'autres survivances.
Disons que les concours de balle-trappe, autrefois appelés les tirs aux pigeons, où des plateaux d'argile sont utilisés, rappellent les anciens concours de village. Une discipline proche du balle-trappe, le skeet olympique, sera présent aux Jeux olympiques de Paris. Ce sport associe réactivité et adresse, et il a été pratiqué à Bourg jusqu'à la suppression du pas de tir des veines pour des raisons de nuisance sonore.
Nous étions dans la Bresse d'autrefois. Restons-y avec les jeux de quilles.
Ce jeu était pratiqué dans presque tous les villages d'autrefois, mais là encore, nous disposons de peu d'archives. C'était un jeu d'argent et aux temps anciens, des communes le mettaient aux enchères pour une durée déterminée. Le cafetier lauréat récupérait ou faisait fructifier sa mise par des redevances sur le jeu et les consommations.
Comment se déroulait ce jeu de quilles ?
Les règles non écrites étaient sans doute différentes d'un lieu à un autre. Avant de jouer, chaque joueur payait sa mise et le vainqueur gagnait l'ensemble des mises déposées. Ensuite, il devenait le maître des lieux et il fixait les règles pour le jeu suivant, et ainsi de suite.
Ce jeu subsiste jusqu'à l'après-guerre. Pourquoi est-il peu à peu abandonné ?
Au fil du temps, des joueurs sont devenus de véritables spécialistes et ils gagnent à tous les jeux. Les affronter est une perte d'argent assurée, alors les villageois se détournent de ce jeu. On peut rappeler que jusqu'à la fin du XIXe siècle, le jeu de quilles, comme la fréquentation des cabarets, est interdit pendant les offices religieux.
Nous avons d'autres anecdotes ?
Souvent, on faisait appel à un enfant pour remettre en place les quilles. C'était le renquilleur. Aux archives départementales, un agent a retrouvé des incidents de jeu où la projection des quilles a blessé un jeune à une jambe. C'est par ces petites annotations que l'on retrouve la vie d'autrefois dans nos villages.
Nous allons terminer notre chronique par un autre jeu désuet, la course d'âne.
Dans l'histoire du sport, le Jockey Club, créé en 1834, est considéré comme l'un des tout premiers clubs sportifs français. Il s'adressait à l'aristocratie, mais nos campagnes ne disposant pas de chevaux de course, alors on se satisfaisait d'ânes.
Nous avons retrouvé le compte-rendu d'une course d'ânes à Treffort en 1879.
Il reflète bien l'ambiance de nos villages lorsqu'on voulait se distraire et ajouter de l'originalité à une fête patronale.
Comme aujourd'hui à Treffort, la fête patronale, ou Vogue, se déroule le 15 août et les animations s'étendent sur 3 jours. Vous nous parlez de cette course ?
Je cite l'article. C'était samedi. La chose a été un peu improvisée, ce qui n'a pas empêché de rassembler 42 ânes. On en aurait réuni un nombre beaucoup plus grand sans aller dans les hameaux, mais on trouva que le nombre de 42 était suffisant. Ces 42 baudets, montés un peu au hasard par des enfants ou par des grands diables dont les pieds touchaient terre, furent alignés sur un champ de foire. Ils devaient aller et revenir, et trois prix attendaient les trois premiers arrivés. Pour stimuler leur ardeur, à chacun d'eux avait été attaché un vigoureux piqueur armé d'un aiguillon.
42 ânes sur la ligne de départ. C'est beaucoup. Que se passe-t-il ensuite ?
Je cite la suite du compte rendu. Le signal de départ donné, nous eûmes sous les yeux le spectacle le plus désopilant qu'on puisse imaginer. Le succès, c'est-à-dire les prix, furent au plus sage. Le premier arrivé est un bon baudet qui, sans faire un écart, avait parcouru la distance fixée d'un pas tranquille et doux.
On retrouve d'autres courses d'ânes.
En 1906, l'Union Bressane, une société musicale, propose une course lors de l'été. La presse annonce cette manifestation mais ne publie pas de compte-rendu. On n'a pas l'assurance que le projet ait été mené à terme.
À l'inverse de ce qui se passe le 1er août 1909.
C'est l'Union sportive de Bourg, club omnisport à l'époque, de rugby aujourd'hui, qui organise ses courses sur son terrain en face de l'église de Broux. Des tribunes sont montées à leur intention et les organisateurs les invitent à acheter par avance leurs billets pour éviter l'encombrement au guichet. Il fait beau et effectivement, le public se presse sur le terrain de Broux. Il est vrai que le train facilite l'arrivée de spectateurs de tous les environs. Les dames ont sorti leurs plus élégantes toilettes, car toute manifestation est une occasion de se montrer.
Tout se passe bien ?
Tout se passe bien, même si des spectateurs sont encore au guichet au moment du départ de la première des 9 courses, en trot attelé et même en steeplechase. Certaines font l'objet d'un pari mutuel. Ces courses ont été photographiées et des cartes postales ont été éditées. Les vues confirment le succès de la manifestation.
Nous pourrions poursuivre car des courses d'ânes se renouvellent à Bourg et ailleurs. Nous en terminons avec cette chronique.
En souhaitant un bel été à tous nos auditeurs, nous remercions Jimmy à la technique et nous vous donnons rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison des chroniques du passé. Nous nous quittons avec les Ans Fantastiques pour une chanson olympique, bien sûr. Au revoir à tous, merci pour votre fidélité à nos antennes locales.